Chapitre 3. Il y a 3 étapes dans votre réintégration,
dit O'Brien.
Il y a l'apprentissage, il y a la compréhension et il y a l'acceptation. Il est temps pour vous d'entamer la 2e étape.
Comme toujours, Winston se tenait étendu sur le dos. Mais depuis longtemps, ses liens étaient moins serrés. Il le maintenait toujours sur le lit, mais il pouvait bouger un peu les genoux et il pouvait tourner sa tête d'un côté et de l'autre et lever le bras à partir du coude. Le cadran aussi était devenu moins redoutable. Winston pouvait éviter la souffrance s'il se montrait suffisamment malin. C'était surtout lorsqu'il montrait de la stupidité qu'O'Brien actionnait le levier. Parfois, il faisait toute une session sans utiliser le cadran. Il ne se souvenait pas combien de sessions il y avait eu. Tout le processus semblait s'étirer sur un temps long et indéfini, des semaines peut-être, et les intervalles entre les sessions lui semblaient avoir été parfois des jours et parfois une heure ou deux.
« Étendu là, »
dit O'Brien,
« vous vous êtes souvent demandé... Vous me l'avez même demandé à moi. Pourquoi le ministère de l'amour dépenserait pour vous autant de temps et d'énergie? Et lorsque vous étiez libre, vous étiez travaillé à peu près par la même question. Vous pouviez appréhender les mécanismes de la société dans laquelle vous viviez, mais pas ses motivations sous-jacentes. Vous souvenez-vous avoir écrit dans votre journal « Je comprends comment, mais je ne comprends pas pourquoi ». C'était quand vous pensiez au pourquoi que vous doutiez de votre santé mentale. Vous avez lu le livre de Goldstein, ou au moins certaines parties. Vous a-t-il appris quoi que ce soit que vous ne sachiez déjà? Vous l'avez lu?
Dit Winston.
Je l'ai écrit. Pour être plus exact, j'ai collaboré à son écriture. Aucun livre n'est écrit par une seule personne, comme vous le savez. Et c'est vrai ce qu'il dit? En tant que description, oui, le programme qu'il énonce est une absurdité. L'accumulation de savoir en secret, une propagation progressive de l'éveil intellectuel, à la fin une rébellion prolétarienne et la chute du parti. Vous aviez prévu vous-même que c'était ce qu'il dirait. Ce ne sont que des absurdités. Les prolétaires ne se révolteront jamais, ni dans 1000 ans, ni dans 1 million d'années. Si vous avez jamais caressé des rêves d'insurrection violente, vous devez les oublier. Il n'y a aucun moyen de renverser le parti. Le règne du parti est éternel. Faites-en le point de départ de toutes vos réflexions.
Il s'approcha du lit.
Éternel !
Répéta-t-il.
Et maintenant, revenons à la question du comment et du pourquoi. Vous comprenez très bien comment le parti se maintient au pouvoir. Maintenant, dites-moi pourquoi nous nous accrochons au pouvoir. Quelle est notre motivation? Pourquoi voudrions-nous le pouvoir? Allez-y, parlez!
Ajouta-t-il, comme Winston demeurait silencieux. Mais Winston ne parla pas pendant quelques instants. Un sentiment de lassitude l'avait submergé. La faible, folle lueur d'enthousiasme était apparue à nouveau sur le visage d'O'Brien. Il savait d'avance ce que celui-ci allait dire. Que le parti ne recherchait pas le pouvoir à ses propres fins, mais seulement pour le bien du plus grand nombre. Qu'il voulait le pouvoir parce que les hommes des masses étaient des créatures fragiles et craintives, qui ne pourraient supporter la liberté ou affronter la vérité, et devaient être gouvernés et systématiquement trompés par ceux qui étaient plus forts qu'eux. Que l'humanité devait choisir entre liberté et bonheur, et que pour la plus grande partie des hommes, le bonheur était plus important. Que le parti était l'éternel gardien du faible, une secte dévouée qui faisait le mal afin qu'en émerge un bien, sacrifiant son propre bonheur à celui des autres. Ce qui était terrible, pensa Winston, c'est que lorsque O'Brien disait cela, il le croyait. On le lisait sur son visage. O'Brien savait tout. 1000 fois mieux que Winston, il savait comment était réellement le monde, dans quel état de dégradation vivait la grande masse des êtres humains, et par quels mensonges et quelle barbarie le parti les y maintenait. Il comprenait tout cela, le prenait en compte, et cela ne faisait aucune différence, Tout était justifié par le but final. Que pouvez-vous faire, pensa Winston, contre le fou qui est plus intelligent que vous, qui écoute volontiers vos arguments et persiste tout simplement dans sa folie.
« Vous régnez sur nous pour votre propre bien, »
dit-il faiblement.
« Vous pensez que les êtres humains ne sont pas capables de se gouverner par eux-mêmes, et donc... »
Il sursauta et se mit presque à pleurer. Une vague de douleur avait traversé son corps. O'Brien avait poussé le levier du cadran au-delà de 35.
« C'était stupide, Winston, stupide. Vous ne devriez pas dire des choses pareilles. »
Il abaissa le levier et continua.
« Maintenant, je vous donne la réponse à ma question. La voici. Le parti recherche le pouvoir uniquement à son propre avantage. Le bien des autres ne nous intéresse pas. Nous nous intéressons uniquement au pouvoir. Pas à la richesse ou au luxe, ou à une vie plus longue, ou au bonheur. Seulement le pouvoir, le pur pouvoir. Ce que signifie le pur pouvoir, vous allez le comprendre. » Nous sommes différents de toutes les oligarchies du passé, dans le sens où nous savons ce que nous faisons. Tous les autres, même ceux qui nous ressemblaient, étaient des couards et des hypocrites. Les nazis allemands ou les communistes russes se sont beaucoup approchés de nous par leurs méthodes, mais ils n'eurent jamais le courage de reconnaître leurs propres motivations. Ils prétendaient, peut-être même le croyaient-ils, qu'ils s'étaient emparés du pouvoir à leur corps défendant et pour un temps limité, et qu'au coin de la rue, il y avait un paradis où les êtres humains seraient libres et égaux. Nous ne sommes pas ainsi. Nous savons que personne ne s'empare jamais du pouvoir avec l'intention d'y renoncer. Le pouvoir n'est pas un moyen, c'est une fin. On n'établit pas une dictature pour sauver une révolution, on fait une révolution pour établir une dictature. Le but de la persécution est la persécution. Le but de la torture est la torture. Maintenant, est-ce que vous commencez à comprendre ?
Winston fut frappé, comme il l'avait déjà été, par l'expression d'épuisement sur le visage d'O'Brien. Il était fort et rond et brutal. Il était plein d'intelligence et d'une sorte de passion contrôlée devant laquelle il se sentait impuissant. Mais il était fatigué. Il avait des poches sous les yeux, la peau pendait sous les pommettes. O'Brien se pencha au-dessus de lui, approchant délibérément son visage usé.
« Vous pensez, »
dit-il,
« que mon visage est vieux et fatigué. Vous pensez que je parle de pouvoir et que je n'ai même pas celui d'empêcher le déclin de mon propre corps. Ne comprenez-vous pas, Winston, que l'individu n'est qu'une cellule ? La fatigue d'une cellule fait la vigueur de l'organisme. « Mourrez-vous quand vous vous coupez les ongles ?»
Il tourna le dos au lit et se mit à nouveau à marcher de ci de là, une main dans la poche.
« Nous sommes les prêtres du pouvoir, »
dit-il.
« Dieu, c'est le pouvoir. Mais pour le moment, pour vous, le pouvoir est seulement un mot. Il est temps pour vous d'avoir une idée de ce que signifie le pouvoir. » La première chose que vous devez comprendre, c'est que le pouvoir est collectif. L'individu n'a de pouvoir que tant qu'il cesse d'être un individu. Vous connaissez le slogan du parti, « La liberté, c'est l'esclavage ». Vous est-il déjà venu à l'esprit que c'était réversible ? L'esclavage, c'est la liberté. Tout seul, libre, l'être humain est toujours vaincu. Il doit en être ainsi, car chaque être humain est voué à mourir, ce qui est le plus grand de tous les échecs. Mais s'il peut se soumettre complètement, totalement, s'il peut échapper à sa propre identité, s'il peut se fondre dans le parti jusqu'à être le parti, alors il est tout-puissant et immortel. La seconde chose que vous devez comprendre, c'est que le pouvoir, c'est le pouvoir sur les êtres humains. Sur leur corps, mais par-dessus tout, sur leur esprit. Le pouvoir sur la matière, la réalité extérieure, comme vous pourriez l'appeler, n'est pas important. Notre contrôle sur la matière est déjà absolu.
Pendant un moment, Winston ignora le cadran. Il fit un violent effort pour se hisser en position assise et ne réussit qu'à se meurtrir douloureusement le corps.
Mais comment pouvez-vous contrôler la matière? Vous ne contrôlez même pas le climat ou les lois de la gravité, et il y a la maladie, la douleur, la mort. »
O'Brien le fit taire d'un mouvement de la main.
« Nous contrôlons la matière parce que nous contrôlons l'esprit. La réalité est à l'intérieur du crâne. Vous apprendrez au fur et à mesure, Winston. Il n'y a rien que nous ne puissions faire. L'invisibilité, la lévitation, rien. Je pourrais flotter au-dessus du sol comme une bulle de savon si je le voulais. Je ne le veux pas parce que le parti ne le veut pas. Vous devez vous débarrasser de ces idées du XIXe siècle sur les lois de la nature. Nous faisons les lois de la nature. Mais non, vous n'êtes même pas les maîtres de cette planète. Et l'Eurasie et l'Estasie, vous ne les avez pas encore conquis. Sans importance, nous les conquérons quand il nous plaira. Et même si nous ne le faisons pas, quelle différence cela ferait-il? Nous pouvons les exclure de l'existence. L'Océanie est le monde. Mais le monde lui-même n'est qu'un grain de poussière, et l'homme est minuscule, impuissant. Depuis combien de temps existe-t-il? Pendant des millions d'années, la Terre était inhabitée. Absurde! La Terre est aussi ancienne que nous, pas plus. Comment pourrait-elle être plus ancienne? Rien n'existe, si ce n'est à travers la conscience humaine. Mais les rochers sont pleins d'os d'animaux disparus, mammouths, mastodontes et d'énormes reptiles qui vivaient longtemps avant qu'on entende parler de l'homme. Avez-vous déjà vu ces os, Winston? Bien sûr que non. Les biologistes du XIXe siècle les ont inventés. Avant l'homme, il n'y avait rien. Après l'homme, s'il pouvait disparaître, il n'y aura rien. Et en dehors de l'homme, il n'y a rien. Mais tout l'univers qui se trouve autour de nous. Regardez les étoiles. Certaines sont à des millions d'années-lumière. Elles sont à jamais hors de votre pouvoir. Et que sont les étoiles ?
Dit O'Brien avec indifférence.
Ce sont des morceaux incandescents à quelques kilomètres. Nous pourrions les atteindre si nous le voulions. Ou nous pourrions les oblitérer. La Terre est le centre de l'univers, le Soleil et les étoiles tournent autour.
Winston eut un autre mouvement convulsif. Cette fois-ci, il ne dit rien. O'Brien continua, comme s'il répondait à une objection.
Dans certains cas, bien sûr, ce n'est pas vrai. Quand nous naviguons sur l'océan ou quand nous prédisons une éclipse, nous trouvons souvent plus pratique de partir du principe que la Terre tourne autour du Soleil et que les étoiles sont à des millions et des millions de kilomètres de nous. Et alors, pensez-vous qu'il soit hors de notre portée de produire un double système d'astronomie? Les étoiles peuvent être proches ou distantes en fonction de nos besoins. Pensez-vous que nos mathématiciens en soient incapables? Avez-vous oublié la pensée double ?
Winston se ratatina sur le lit. Quoi qu'il dise, une réponse rapide l'écraserait comme un coup de matraque. Et pourtant, il savait qu'il avait raison. Cette croyance que rien n'existait en dehors de l'esprit, certainement, il devait y avoir un moyen de la réfuter. Est-ce qu'on n'avait pas démontré depuis très longtemps que c'était une erreur ? Il y avait même un nom pour cela, qu'il avait oublié. Un léger sourire souleva les commissures des lèvres d'O'Brien, tandis qu'il le dominait du regard.
« Je vous ai dit, Winston, »
dit-il,
« que la métaphysique n'est pas votre point fort. Le mot que vous essayez de trouver est solipsisme. Mais vous vous trompez, il ne s'agit pas d'un solipsisme, un solipsisme collectif, si vous voulez. Mais c'est autre chose, en fait, c'est le contraire. Tout ça est une digression. »
ajouta-t-il sur un ton différent.
Le véritable pouvoir, celui pour lequel nous devons nous battre nuit et jour, n'est pas le pouvoir sur les choses, mais sur les hommes.
Il fit une pause, et pendant un moment, il adopta à nouveau l'attitude d'un maître d'école qui interroge un élève prometteur.
Comment un homme s'assure-t-il de son pouvoir sur un autre, Winston ?
Winston réfléchit.
En le faisant souffrir.
Dit-il.
Exactement, en le faisant souffrir. L'obéissance ne suffit pas. Tant qu'il ne souffre pas, comment pouvez-vous être sûr qu'il obéit à votre volonté et non à la sienne propre? le pouvoir réside dans le fait de lui infliger douleur et humiliation. Le pouvoir, c'est mettre en pièces les esprits humains et les assembler de nouveau pour leur faire prendre la forme de votre choix. Commencez-vous à voir alors quelle sorte de monde nous sommes en train de créer ? C'est l'exact opposé de ces stupides utopies hédonistes que les anciens réformateurs imaginaient. Un monde de peur et de perfidie et de tourment. Un monde où l'on écrase les autres et où on est écrasé. Un monde qui ne sera pas de moins en moins impitoyable, mais de plus en plus impitoyable, tandis qu'il se perfectionnera. Dans notre monde, le progrès sera un progrès vers plus de souffrance. Les anciennes civilisations clamaient qu'elles étaient fondées sur l'amour ou la justice. La nôtre est fondée sur la haine. Dans notre monde, il n'y aura aucune émotion si ce n'est la peur, la rage, le triomphe et l'humiliation. Nous détruirons tout le reste, tout. Déjà, nous abattons les habitudes de pensée qui avaient survécu après la Révolution. Nous avons coupé les liens entre les enfants et les parents, et entre l'homme et l'homme, et entre l'homme et la femme. Plus personne n'ose faire confiance à une épouse, ou à un enfant, ou à un ami. Mais dans le futur, il n'y aura plus ni épouse ni ami. Les enfants seront enlevés à leur mère à la naissance, comme on prend un œuf à une poule. L'instinct sexuel sera éradiqué. La procréation sera une formalité annuelle, comme le renouvellement d'une carte de rationnement. Nous abolirons l'orgasme. Nos neurologues y travaillent. Il n'y aura plus aucune loyauté, si ce n'est la loyauté envers le parti. Il n'y aura plus d'amour, à part l'amour de Big Brother. Il n'y aura plus de rire, à part le rire du triomphe sur un ennemi vaincu. Il n'y aura plus d'art, de littérature, de science. Quand nous serons omnipotents, nous n'aurons plus besoin de science. Il n'y aura plus de distinction entre la beauté et la laideur. Il n'y aura plus de curiosité, plus aucune joie de vivre. Tous les plaisirs seront détruits. Mais toujours, n'oubliez pas cela, Winston. Toujours, il y aura l'ivresse du pouvoir, sans cesse croissante et toujours plus subtile. Toujours, il y aura le frisson de la victoire, la sensation de piétiner un ennemi sans défense. Si vous voulez une image du futur, figurez-vous une botte écrasant un visage humain, pour toujours.
Il fit une pause, comme s'il s'attendait à une réponse de Winston. Winston avait essayé à nouveau de se recroqueviller sur le lit. Il ne pouvait rien dire, son cœur semblait de glace. O'Brien poursuivit.
Et souvenez-vous que c'est pour toujours. Le visage restera toujours là à être piétiné. L'hérétique, l'ennemi de la société, sera toujours là, afin de pouvoir être vaincu et humilié encore et encore. Tout ce que vous avez subi depuis que vous êtes entre nos mains, tout cela continuera, et bien pire. L'espionnage, les trahisons, les arrestations, la torture, les exécutions, les disparitions ne cesseront jamais. Ce sera un monde de terreur aussi bien qu'un monde de triomphe. Plus le parti sera puissant, moins il sera tolérant. Plus l'opposition sera faible, plus le despotisme sera fort. Goldstein et ses hérésies vivront éternellement. Chaque jour, à chaque instant, ils seront vaincus, discrédités, ridiculisés. On leur crachera dessus et pourtant, ils survivront toujours. Cette comédie que j'ai jouée avec vous durant 7 ans sera jouée encore et toujours, de génération en génération, toujours sous une forme plus subtile. Toujours, nous aurons l'hérétique ici, à notre merci, hurlant de douleur, brisé, méprisable, et à la fin, totalement repentant, sauvé de lui-même, rampant à nos pieds de son propre chef. Voilà le monde que nous préparons, Winston. Un monde de victoires succédant aux victoires, un monde de triomphe après triomphe après triomphe, une pression, une pression, une pression sans fin sur les cordes du pouvoir. Vous commencez, je le vois, à réaliser à quoi ressemblera le monde. Mais à la fin, vous ferez mieux que le comprendre. Vous l'accepterez, vous l'accueillerez, vous en ferez pleinement partie.
Winston s'était suffisamment remis pour pouvoir parler.
« Vous ne pouvez pas !»
dit-il faiblement.
« Que voulez-vous dire par là, Winston ? Vous ne pouvez pas créer un monde tel que celui que vous venez de décrire. C'est un rêve, c'est impossible. Pourquoi ? Il est impossible de fonder une civilisation sur la peur, la haine et la cruauté. Cela ne pourrait pas durer. Et pourquoi pas ? Elle n'aurait aucune vitalité, elle se désintégrerait, elle se suiciderait. Absurde ! Vous avez l'impression que la haine est plus épuisante que l'amour. Pourquoi devrait-il en être ainsi ? Et si c'était le cas, quelle différence cela ferait-il ? Supposez que nous choisissions de vieillir plus vite. Supposez que nous accélérions le rythme de la vie humaine de façon à ce que les hommes soient séniles à 30 ans. Même alors, quelle différence cela ferait-il ? Ne pouvez-vous comprendre que la mort des individus n'est pas la mort ? Le parti est immortel !
Comme toujours, la voix avait acculé Winston à l'impuissance. De plus, il craignait que s'il persistait à le contredire, O'Brien tournât encore le cadran. Et pourtant, il ne pouvait garder le silence. Faiblement, sans argumentation, avec rien d'autre pour le soutenir que son inexprimable horreur face à ce que venait de déclarer O'Brien, il repassa à l'attaque.
« Je ne sais pas, peu m'importe, d'une façon ou d'une autre vous échouerez. Quelque chose vous vaincra, la vie vous vaincra. Nous contrôlons la vie, Winston, à tous ses niveaux. Vous vous imaginez qu'il existe une chose qu'on appelle la nature humaine ? Qui sera révolté par ce que nous faisons et qui se retournera contre nous. Mais nous créons la nature humaine. Les hommes sont infiniment malléables. Ou peut-être en êtes-vous revenu à votre ancienne idée des prolétaires ou des esclaves qui se soulèvent et nous renversent. Sortez-vous ça de l'esprit, ils sont impuissants comme des animaux. L'humanité, c'est le parti. Les autres sont hors humanité, insignifiants. Peu importe, au final, ils vous battront. Tôt ou tard, ils vous verront tel que vous êtes, et alors ils vous mettront en pièces. Voyez-vous une quelconque preuve que cela soit en train d'arriver, ou une raison pour que cela arrive ? Non, je le crois. Je sais que vous échouerez. Il y a quelque chose dans l'univers, je ne sais pas, un esprit, un principe, que vous ne pourrez jamais dominer. Croyez-vous en Dieu, Winston ? Non. Alors, quel est-il, ce principe qui nous vaincra ? Je ne sais pas, l'esprit humain. Et vous vous considérez comme un homme ? Oui. Si vous êtes un homme, Winston, alors vous êtes le dernier homme. Votre race est éteinte, nous sommes ses héritiers. Comprenez-vous que vous êtes seul ? Vous êtes en dehors de l'histoire. Vous êtes inexistant. »
Son attitude changea, et il dit plus durement.
« Et vous pensez que vous êtes moralement supérieur à nous, avec nos mensonges et notre cruauté ?»« Oui, je me considère comme supérieur. »
O'Brien ne parlait plus. C'était maintenant deux autres voix qui parlaient. Après un moment, Winston reconnut sa propre voix dans l'une des deux voix. C'était un enregistrement de la conversation qu'il avait eue avec O'Brien le soir où il s'était engagé dans la confrérie. Il s'entendit promettre de mentir, de voler, de faire des faux, d'assassiner, d'inciter à la consommation de drogue et à la prostitution, de propager des maladies vénériennes et d'envoyer du vitriol sur le visage d'un enfant. O'Brien eut un petit geste d'impatience, comme pour dire que cette démonstration était à peine nécessaire. Puis il tourna un bouton et les voix s'arrêtèrent.
« Levez-vous de ce lit, »
dit-il. Les liens s'étaient détachés d'eux-mêmes. Winston posa les jambes sur le sol et se mit debout en titubant.
« Vous êtes le dernier homme. Vous êtes le gardien de l'esprit humain. Vous allez vous voir tel que vous êtes. Ôtez vos vêtements. »
Winston défit la lanière qui maintenait sa tenue. La fermeture éclair avait été arrachée depuis longtemps. Il ne se rappelait pas avoir enlevé en même temps tous ses vêtements depuis son arrestation. Sous son bleu de travail, son corps était entouré de haillons jaunâtres, répugnants, dans lesquels on pouvait à peine reconnaître les restes de sous-vêtements. Tandis qu'il les faisait glisser au sol, il vit qu'il y avait un miroir en triptyque à l'autre bout de la pièce. Il s'en approcha, puis s'arrêta. Il avait poussé un cri involontaire.
« Allez-y !»
dit O'Brien.
« Tenez-vous entre les deux côtés du miroir. Vous vous verrez aussi de profil. »
Il s'était arrêté parce qu'il avait peur. Une chose voûtée, grisâtre, semblable à un squelette, s'avançait vers lui. Son apparence était effrayante, et pas seulement parce qu'il savait qu'il s'agissait de lui-même. Il s'approcha plus près. Le visage de la créature, à cause de sa posture courbée, paraissait protubérant. Un visage triste de prisonnier, un front dégarni se prolongeant sur un crâne chauve, un nez de travers et des pommettes meurtries sous des yeux féroces et vigilants. Les joues étaient marquées, la bouche rentrée. Certainement, c'était son propre visage, mais qui s'était transformé, lui semblait-il, plus radicalement encore que son esprit. Les émotions qu'exprimait ce visage ne correspondaient pas à celles qu'il ressentait. Il était devenu partiellement chauve. Au début, il avait pensé que ses cheveux étaient devenus gris, mais c'était son cuir chevelu qui était devenu gris. À part ses mains et un cercle autour de son visage, son corps était entièrement gris, incrusté de vieilles crasses. Ici et là, sous la saleté, se voyaient les cicatrices rouges de ses blessures, et sous la cheville, l'ulcère variqueux était une masse enflammée dont la peau s'écaillait. Mais le plus terrifiant, c'était la maigreur de son corps. La cage thoracique était aussi étroite que celle d'un squelette. Les jambes avaient fondu si bien que les genoux étaient plus épais que les cuisses. Il comprenait maintenant ce qu'avait voulu dire O'Brien lorsqu'il lui avait parlé de la vue de côté. La courbure de la colonne vertébrale était stupéfiante. Les fines épaules étaient plongées en avant, faisant de la poitrine une cavité. Le cou décharné semblait plier doublement sous le poids du crâne. Au jugé, il aurait dit que c'était le corps d'un homme de 60 ans souffrant d'une maladie chronique.
Vous avez pensé quelquefois,
dit O'Brien,
que mon visage, le visage d'un membre du cercle intérieur du parti, avait l'air vieux et usé. Que pensez-vous de votre propre visage ?
Il saisit Winston par l'épaule et le fit se retourner afin qu'il lui fît face.
Regardez dans quel état vous êtes.
« Dit-il.
Regardez cette crasse répugnante sur tout votre corps. Regardez la saleté entre vos orteils. Regardez cette plaie dégoûtante qui suppure sur votre jambe. Savez-vous que vous puez comme un bouc ? Certainement, vous avez fini par ne plus vous en rendre compte. Regardez cette maigreur. Vous voyez, mon index et mon pouce peuvent faire le tour de votre biceps. Je pourrais vous casser le cou comme à un poulet. » « Savez-vous que vous avez perdu 25 kilos depuis que vous êtes entre nos mains ? Même vos cheveux s'en vont par poignées. Regardez !»
Et d'un geste, il arracha une touffe de cheveux de la tête de Winston.
« Ouvrez la bouche. Il vous reste 9, 10, 11 dents. Combien en aviez-vous quand vous êtes arrivé parmi nous ? Et le peu qu'il vous reste vous tombe de la mâchoire. Regardez !»
Il saisit l'une des incisives restantes de Winston entre son pouce et son index puissant. Une violente douleur jaillit dans la mâchoire de Winston. O'Brien avait arraché la dent jusqu'à la racine. Il la balança à travers la cellule.
« Vous êtes en train de pourrir, »
dit-il.
« Vous tombez en morceaux. Vous êtes quoi ? Un sac d'immondices ? Maintenant, tournez-vous et regardez-vous à nouveau dans le miroir. Vous voyez cette chose qui vous fait face ? C'est le dernier homme. Si vous êtes humain, alors voilà l'humanité. Maintenant, rhabillez-vous. »
Winston commença à se rhabiller, avec des mouvements lents et raides. Jusqu'à cet instant, il n'avait pas remarqué à quel point il était maigre et faible. Une seule pensée obsédait son esprit. Il devait se trouver là depuis plus longtemps qu'il ne l'imaginait. Puis soudain, alors qu'il fixait les misérables guenilles autour de lui, un sentiment de pitié pour son corps en ruine le submergea. Avant qu'il puisse réaliser ce qu'il était en train de faire, il s'était écroulé sur un petit tabouret qui se trouvait à côté de lui, et il fondit en larmes. Il était conscient de sa laideur, de son inélégance, un tas d'eau dans des sous-vêtements répugnants, assis à pleurer dans la lumière blanche et crue, mais il ne pouvait s'arrêter. O'Brien posa une main sur son épaule, presque avec douceur.
« Ça ne durera pas toujours, »
dit-il.
« Vous pouvez y échapper quand vous le voudrez. Tout dépend de vous. » « C'est vous qui avez fait ça, »
dit-il.
« Vous m'avez réduit à cet état. » « Non, Winston, c'est vous qui vous y êtes réduit. C'est ce que vous avez accepté quand vous vous êtes dressé contre le parti. Tout était contenu dans le premier acte. Tout ce qui vous arrive était prévisible. »
Il fit une pause, puis poursuivit.
« Nous vous avons battu, Winston. Nous vous avons brisé. Vous avez vu à quoi ressemble votre corps. Votre esprit est dans le même état. Je ne pense pas qu'il puisse rester en vous beaucoup de fierté. Vous avez été frappé et flagellé et insulté. Vous avez hurlé de douleur. Vous vous êtes vautré sur le sol, dans votre propre sang et votre propre vomi. Vous avez imploré pitié. Vous avez trahi tout et tout le monde. Pouvez-vous imaginer une seule dégradation qui ne vous ait été infligée ?
Winston avait cessé de pleurer, même si des larmes coulaient toujours de ses yeux. Il les leva vers O'Brien.
« Je n'ai pas trahi Julia, »
dit-il. O'Brien le regarda pensivement.
« Non, »
dit-il.
« Non, c'est parfaitement vrai. Vous n'avez pas trahi Julia. »
Le respect particulier qu'il éprouvait pour O'Brien, et que rien ne pouvait visiblement détruire, s'imposa à nouveau à Winston. Comme il était intelligent, pensait-il, comme il était intelligent. O'Brien ne manquait jamais de comprendre ce qu'on lui disait. Tout le monde sur Terre aurait immédiatement répondu qu'il avait trahi Julia, car que ne lui avait-il extorqué sous la torture ? Il leur avait dit tout ce qu'il savait sur elle, ses habitudes, son caractère, son passé. Il avait raconté de la façon la plus triviale tout ce qui était arrivé lors de leur rencontre, tout ce qu'il lui avait dit et ce qu'elle lui avait dit, leur repas de marché noir, leur adultère, leur vague complot contre le parti, tout. Et pourtant, dans le sens qu'il donnait à ce mot, il ne l'avait pas trahi. Il n'avait pas cessé de l'aimer. Ses sentiments pour elle étaient restés les mêmes. O'Brien avait compris ce qu'il voulait dire, sans avoir eu besoin d'explication.
« Dites-moi, »
dit-il,
« quand me fusillera-t-on ? Ça peut être dans longtemps, »
dit O'Brien.
« Vous êtes un cas difficile, mais ne perdez pas espoir. Tout le monde guérit tôt ou tard. À la fin, nous vous fusillerons. »